À quelle Universitat Occitane d'Estiu est-ce bastide sur l'outil tout qui nous service des fials rouges va qui le pays, donc avions l'invège des sousca à l'entour de la notion des pays et de que fa pays en 2024 et non pas en 1900 ou donc la sousca 10 est l'ensemble de la conférences est per ensajar de saisir de veille d'avoir une représentation de ce qu'est le pays en 2024, mais toute aquelle société qui est à l'encop multiculturelle, multiethnique et presque tabée de la mondialisation, de l'uniformisation de la culture et des biais des vieux. Et de veille qui nous place pour avoir la culture occitane et la langue occitane dans quel paysage. Et donc, le pays, n'est pas seulement un territoire vierge qui suffit d'aménager, qui est libre à l'aménager et qui peut faire ce qu'il veut. Il y a des mondes qui vivent ici. Il y a une histoire, il y a une langue, et il y a des problématiques aussi qui se posent à le monde qui vivent, qui travaillent, qui ici. Et donc, le pays c'est un lieu des conflits. Et donc, à quels conflits, lorsqu'on prend en compte. Et il y a tabé des solutions, des propositions pour vivre ensemble, pour faire de quel pays, hein, la thématique alternative pour un pays durable et désirable, va qui. Et donc, avec un convidat ici des mondes qui, quand sous-camp ou qui font des propositions, per à quel pays. Donc, Dominique Andrieux-Bonnet, que nous avons invité pour modérer et pour animer cette table ronde, et je vais rapidement lui laisser le micro et la parole. Juste, je présente un peu tout ça. Je vais vous laisser présenter nos invités. Voilà, tout simplement.
Alors merci. D'abord, donc je suis Dominique Andrieux-Bonnet, je suis écologiste en priorité, là, c'était militante écologiste, je suis à ELV, les écologistes, et je suis conseillère départementale. Donc à vrai dire, je suis vraiment ravie d'avoir été invitée, d'abord par le lieu, c'est magnifique, je connaissais bien, mais bon, c'est très agréable au centre-ville de la ville d'avoir tant d'arbres et on entend les cigales. Et puis aussi par l'Université Occitane, parce que je pense que mon grand-père serait content, parce que mon grand-père était instituteur en Aveyron, et lui, en tant qu'instituteur, on lui interdisait de faire parler aux élèves la langue, hein, le patois, on disait le patois. Et puis, c'est l'institution hein, qui lui disait, celui qui parlait le patois pendant la journée, le dernier qui le parlait dans la journée devait nettoyer la salle. Et après, à sa retraite, il s'est rattrapé, il a fait partie d'associations, etc., pour remettre au goût du jour cette très belle langue qui est vraiment autour du bassin méditerranéen, hein, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, et dans le sud, voilà. Donc, et puis cette culture occitane qu'on doit perpétuer, hein, et puis chacun de nous là à l'intérieur de nous, parce que dès qu'on entend de la musique, on a envie de danser, et voilà. Alors par contre, j'ai pas perdu l'accent, je pense, parce que l'accent on l'a bien, on peut pas le perdre, c'est impossible pour moi. Par contre, j'ai essayé d'essayer de la reprendre le patois, mais c'est pas évident quand on l'entend pas tout le temps, etc. C'est beaucoup plus dur. Hein, il faut peut-être prendre plus de temps pour ça. Et j'ai du mal aussi toujours à comprendre par rapport aux accents aussi. Bon, alors voilà. D'abord, vraiment merci. Donc, merci à vous qui êtes venus pour cette journée. Et puis, merci aussi à vous qui êtes intéressés par tout ça. Alors, on va parler, nous, alors peut-être plus du futur. Là, on parlait d'avant. Avant, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Mais cette racine occitane, je trouve qu'on a tous un lien. Quand on parle d'écologie, je pense que c'est... Bien sûr, les écologistes ont besoin de garder cette langue. On a cette tradition, on est tous en catalan, en Occitanie, là, le catalan est très important aussi. Donc, vraiment, dans la militance, on veut garder les langues, aider ces écoles aussi prennent à fort apprendre aux enfants. Ce n'est pas si simple que ça, mais la langue, etc. Et puis, c'est toute cette culture-là qu'il faut préserver, donc les aides. Alors, donc, je parlais du futur. Le futur, c'était donc le thème, c'est bâtir le pays que nous voulons. Ah, c'est ça, on a, surtout dans cette période, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que nous voulons vraiment pour notre pays? Et puis, quelle alternative pour un pays durable et désirable? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on soit bien, désiré? Désiré, on le veut, pourquoi? Et puis après, durable, un pays durable qui peut continuer dans ce chemin-là. Alors, en tant qu'écologiste, on en parle beaucoup du développement durable, etc., où on lie l'économie, le social et l'environnemental. Bien sûr que tout est lié, il faut que le pays vive, donc il faut quand même de l'économie. Il faut bien sûr l'environnement, on sait très bien qu'on est bien entouré, bien, qu'on respire bien, qu'on mange bien. Et le social, je pense que c'est ce lien-là qui est la priorité. Et je pense que dans les thèmes qu'on va avoir après, que les intervenants vont y parler, donc on voit que le lien social est la priorité, mais à tout âge. Le lien social est différent quand on est enfant, puisque l'école, grâce à l'école, il y a le lien social, l'adolescence, le collège, et après, le travail, on a un lien social, ou on le perd, le lien social, des fois, on se retrouve de plus en plus seul derrière son écran, peut-être. Et après, quand on est plus âgé à la retraite, y en a qui se renferment chez eux, sinon qui vont faire des associations pour apprendre autre chose. Et ça, je crois que c'est vraiment par génération. Le lien social est très important. Et je pense que depuis le Covid, on s'est aperçu que de cette importance-là, parce que ceux qui ont perdu ce lien social, il y a eu beaucoup de maladies mentales, les jeunes qui ont vraiment ont souffert de ça, et puis les gens isolés. Donc là, je dis quelques mots et après je vais vous laisser quand même. Et je vois aussi le monde du futur, c'est aussi la culture, l'art. On a besoin aussi d'aller voir des concerts, de la musique, etc., de faire de la danse, d'avoir des expositions, etc., de faire beaucoup de rencontres autour de ça. Pour les jeunes aussi, le monde désirable, ça peut être aussi un travail en commun. Quand on parle de coworking maintenant, c'est travailler en dehors de son entreprise, mais à plusieurs, chacun dans une salle. C'est dans la ville qu'on peut trouver ça, on le trouve sur Nîmes aussi, mais pour ne pas aller faire du trajet, on va travailler ensemble dans une ville. Il y a des lieux spécifiques pour ça. Je vois aussi un monde désirable, c'est quand notre ville... elle est végétalisée, on n'a plus ces immeubles, ce béton, etc. Alors ça, vous allez peut-être en parler un peu plus après, mais on retourne, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de mieux respirer, donc on a besoin de plus de végétal. Le végétal était mis à l'extérieur de la ville, maintenant ça y est, on fait revenir le végétal à l'intérieur. Après, ce qui est important aussi, vous allez en parler tout à l'heure, c'est les déplacements. On veut être plus en sécurité, peut-être trouver la place de la mobilité douce et les transports en commun. On parle aussi de l'alimentation. On veut plus d'être en sécurité par rapport à l'alimentation, pas manger n'importe quoi. Et peut-être aussi même s'alimenter lui-même, faire ses jardins partagés. On parle de jardins potagers partagés qu'il y a de plus en plus dans les villes. Et peut-être je pense aussi aux déchets, parce que je pense que dans le pays durable et désirable, nos déchets ont maintenant une place énorme. On voit l'incinérateur hein, maintenant qu'on a, mais est-ce que ces déchets qui continuent à avoir, hein, parce que là on a le mâchefer, etc., qu'on enterre, etc., qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça sera durable de pouvoir enterrer encore nos déchets? Donc il y a peut-être aussi ce travail en amont, c'est-à-dire mais, avoir moins d'emballage, etc., trouver d'autres solutions hein, pour ces déchets, je pense, par rapport aussi à la pollution atmosphérique, etc. Et on voit de plus en plus aussi de ressourceries hein, dans les villes. C'est plutôt une demande de tous. On voit les vêtements, hein, on achète moins peut-être de vêtements neufs, on va plutôt réutiliser, surtout pour les petits. Hein, je veux dire, ils les utilisent très peu de temps, etc. Voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à ce pays durable et désirable, c'est inventer le futur pour qu'on soit mieux et je mettrai en priorité voilà, le lien social. Alors, donc nous avons quand même deux intervenants. Alors, on devait avoir les jardins partagés, une société active de Christine Fendal qui a eu le Covid. Là aussi c'est un jardin partagé qui n'est pas loin d'ici, là, c'était ancien... Bigot, hein, c'était ancien le collège de Bigot.
Il y a un jardin partagé, effectivement,
ouais.
À Nîmes, mais Christine Fendal, c'était sur Marseille.
Ah oui, c'est pas celui de Nîmes. Alors, ouais. Ah oui, parce qu'elle a changé de présidence. Ils n'ont pas venu, voilà. Parce que là, ils font du lien social, parce qu'en fait, ils font de la réinsertion hein, par rapport aux gens en quartier. Et...
Oui.
Oui. Et oui, voilà. Et là, donc, c'est pas loin, c'est un jardin partagé où ils font vraiment venir les gens du quartier, où on travaille différents thèmes. Ils font aussi le potager, mais aussi le recyclage, etc. Donc, ils travaillent bien. Après, alors là, je vais laisser la parole peut-être. Il y a M. Luc Doumenc, qui est architecte social et le lien social, architecte urbaniste, enseignant atterré. Et nous avons Céline Laousse, que je connais par l'école, hein, puisqu'elle était travaillée pour toutes nos écoles nîmoises, qui, elle, a changé de direction, les retraités, et elle travaille sur la mobilité pour une ville apaisée, associative, avec Croco Vélo. Donc, on connaît bien Patrick Forest. Voilà. Voilà, alors je vais vous laisser la parole, Monsieur Luc Doumenc.
Pas très bien, ok. Bon, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Pas de problème.
En fait, on enregistre aussi pour une captation.
Ok. Bon, je me présente quand même un petit peu. Je suis architecte urbaniste, architecte passionné. j'ai fait des études multiples qui ont essayé de retarder le moment où je prendrai des responsabilités dans une société qui ne se prêtait pas à ce qu'un révolutionnaire puisse avoir des commandes. Hein, voilà. C'était un gros problème. Puis finalement, me lançant, je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir des commandes parce que finalement, je faisais des objets qui plaisaient, y compris aux gens qui en faisaient commerce. Voilà. Heureusement qu'entre-temps, ce qui m'a sauvé et qui m'a relancé, c'est l'enseignement. J'ai eu la chance à 28 ans de rentrer dans l'enseignement de l'architecture. J'ai enseigné d'abord à des gens qui étaient en formation continue. C'était un truc un peu exceptionnel. C'est comme si les architectes avaient accepté, avec leurs salariés, une convention pour que la formation continue leur permette d'arriver au diplôme d'architecte. C'est comme si les toubibs, ces grands messieurs, acceptaient de participer à une formation des infirmières pour qu'elles deviennent toubibs. Vous imaginez un peu la révolution, quoi. Hein. Voilà. Donc c'était assez intéressant. Oui. Voilà. Et donc, l'enseignement après dans les écoles d'architecture de Toulouse et de Marseille, ça m'a beaucoup plu. Et j'étais comme un poisson dans l'eau avec des étudiants qui répondaient présents sur toutes les sollicitations. Enfin, c'était vraiment un plaisir. Voilà. Alors, commencer, je me suis demandé comment j'allais démarrer. Et avec les élections passées, là, je me suis dit qu'il y avait des choses dont je parle toujours, que je peux dire ici, C'est que, par exemple, égalité, enfin, liberté, égalité, fraternité, c'est déjà un truc pervers. Parce que si on réfléchissait, il faudrait parler de fraternité, d'égalité et de liberté. Parce que la liberté sans rien, eh ben, c'est les riches qui auront la liberté, les autres ne l'auront pas. Et par contre, la fraternité, ça oblige à la solidarité. Hein, donc ça pose le vrai problème, qui doit se passer par l'égalité et qui permet la liberté. Donc voilà, on est déjà, et vous savez, dans l'histoire, déjà, les trois termes n'étaient pas pareils. Je ne me souviens plus comment ils étaient, mais la liberté n'arrivait pas en tête. Voilà, alors, l'architecture, là-dedans, qu'est-ce que c'est ? Ben, on dit que c'est l'art de construire, bon, de créer. C'est un art un peu complexe, au sens où il introduit beaucoup, beaucoup de choses à traiter. C'est ce qui m'avait plu. Comme j'étais un éclectique par définition, ça m'a passionné, quoi. Et donc, l'architecture, ça participe à créer l'environnement des usages des hommes. Hein. La production des espaces exigée pour permettre les relations sociales. C'est-à-dire, il n'y a pas d'architecture qui ne soit liée à des relations sociales. Hein. Et sauf peut-être des bunkers policiers ou autres, et encore que ça représente des fonctions sociales, mais bon. Et comment dire, ce type de travail montre qu'on est d'abord sur une programmation des nécessités de l'architecture. Et ça, alors, c'est complètement banni. C'est-à-dire que quand on a une programmation, on a quelques feuilles qui parlent de quantité, de nomination de locaux, enfin des choses très bizarres. Quoi. L'architecture, c'est ce qui fait la ville. Hein, c'est-à-dire que l'architecture, c'est un dedans et un dehors. Dès qu'on crée une façade, elle participe à éclairer ce qui est dedans et à l'organiser, et elle participe à voir l'extérieur. Et dans l'extérieur, elle participe à créer un monde qui nous imprègne sans qu'on le sache. C'est-à-dire on est dans une architecture, pour l'essentiel, mais toujours, hein, même quand c'est dans des villages, hein, et on y meurt. Enfin bon, et on est entouré donc par des objets qui ont une certaine... qui ont une présence lourde, hein, qui peut être parfaite, sympathique ou au contraire déplorable. Quoi. On est de plus en plus dans des secteurs déplorables, c'est-à-dire on est de plus en plus dans des espèces d'objets qui s'apparentent, pour fixer les choses, qui s'apparentent au lotissement de villas. C'est-à-dire on a des parcelles sur lesquelles on pose des boîtes. Alors ces boîtes, c'est des boîtes à vivre, à habiter, c'est des logements collectifs ou des villas. Et puis après, c'est surtout des entreprises, des commerces. C'est hallucinant. Et quand on rentre dans les villes d'aujourd'hui, on est environné par cette espèce de réalité déplorable. Déplorable. Je suis passé un jour, il n'y a pas très longtemps, 3-4 ans, à la demande d'un copain qui est au théâtre de Privas, qui faisait une représentation théâtrale. Et j'ai traversé le Haut-Gard et puis l'Ardèche. Et j'avais fait ce travail beaucoup parce que j'étais marié, ce trajet beaucoup parce que j'étais marié avec une Ardéchoise avant. Bon. Et en arrivant à Aubenas et puis à Privas, j'ai été stupéfié parce que je faisais ce trajet dans les années 70, 75, hein, 80. Voilà. Et là, 40 ans après, j'étais stupéfié de voir que d'abord, on ne passait plus dans le village, à Aubenas, et qu'on traversait la zone industrielle qui était colossale, colossale. Et puis, à Privas, pareil. Alors après, je suis rentré à la maison, et puis j'ai pris les surfaces, et je me suis rendu compte que la surface où habitait l'essentiel des gens représentait à peu près un vingtième de la surface consommée en 20 ans par ces espèces de zones de merde, dans lequel on pourrait se dire, tiens, au moins ça a développé de l'emploi. Mais j'ai regardé l'emploi, catastrophe. L'emploi avait diminué, le taux de chômage avait augmenté, et les surfaces étaient gigantesques. Donc on nous a obligés à consommer du déplacement, de la nature, de la beauté. On a aboli tout ça pour le pognon des riches qui sont sur les grands secteurs d'investissement de l'architecture et de l'urbanisme et des travaux publics. Voilà. Alors, c'est le contraire à l'architecture. Ça devrait être le lieu de croisement des richesses sociales, la permission de développement des cultures, hein, dont nous sommes pénétrés, de toute façon, hein, pétris. Hein. C'est, comme je l'ai dit, c'est l'architecture qui façonne la ville, mais qui est façonnée par la ville. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour qui faisait la ville spontanément en la respectant. Hein. Aujourd'hui, finalement, on est sur autre chose. On a délégué tous les pouvoirs de faire la ville et l'architecture à des gens qui nous représentent, hein, les élus, hein, les décideurs, les promoteurs, toutes les forces aiguisées, organisées de l'argent amassé par le moyen de cette marchandisation. Hein, c'est-à-dire que c'est elle qui fait l'urbanisme. Hein, c'est la loi de la finance qui fait l'urbanisme. À Montpellier, c'est les promoteurs qui font l'urbanisme. C'est une catastrophe. Mais c'est partout pareil, hein, y compris dans les villes qui seraient tenues par ce qui représenterait la gauche la plus ultra. Non, c'est toujours les promoteurs qui font la ville. On ne s'en préoccupe pas. On n'y comprend rien. On fait des logements sociaux. On n'a pas de programmation. On n'a pas de rencontre avec les futurs habitants. On ne sait rien. On fait toujours les mêmes choses. Hein. Et ça se vide, y compris de possibilités d'intervention sur l'esthétique. Ça se vide parce que à l'époque, on avait encore la possibilité de travailler avec des gens, les maçons, qui connaissaient leur métier. Aujourd'hui, les maçons, c'est des poseurs d'objets préfabriqués. Et on fait donc des bâtiments qui sont des espèces d'ensembles d'objets préfabriqués, absolument merdiques, qui n'ont plus d'espace intérieur et qui ont encore moins d'espace extérieur. C'est des boîtes. Hein, voilà. Et ça, vous pouvez le voir partout. Plus c'est moderne, plus c'est une boîte. Voilà. Alors, on a même organisé un truc extraordinaire qui s'appelle la destruction-construction. C'est-à-dire que la ville, c'était la pérennité. La ville, c'était l'histoire qu'on voyait, c'est-à-dire c'était le patrimoine lié au contemporain. Hein. C'était le patrimoine réorganisé pour resservir avec des usages qui avaient bougé. Hein. Et ces architectures de l'époque le permettaient. On pouvait avoir une fabrique de tabac comme à Toulouse qui devenait un lieu de culture. Hein. Bon, parce que ça s'y prêtait, c'était bien construit, ça avait tenu dans le temps, c'était beau. Hein. Maintenant, une boîte avec quatre poteaux métalliques, autant de poutres, un toit en métal et du verre en façade, c'est rien du tout. Ça permet rien. Ça suscite rien. Ça sollicite rien. Donc on redémolit et on reconstruit les mêmes choses qui vont être redémolies. Donc on est sur une logique de reconstruction, déconstruction trentenaire, voire 25 ans, 20 ans. Moi, j'ai vu de mon vivant des choses de grande qualité faites pour des raisons sociales qui ont été démolies. J'ai vu comme ça, par rapport aux gares, là, j'ai eu la colonie des mines d'Alès, colonie de vacances qu'on avait fait au Gros du Roi, qui était un très bel objet, qui a été démoli, vendu, pour y mettre dessus une résidence pour personnes riches âgées en bord de mer. À Pérol, c'était la colonie de vacances de. Hop, je ne me souviens plus. Dans le Vaucluse, avant que ce devienne. Le Rassemblement national, c'était communiste. Et à cette époque-là, on faisait des colonies de vacances pour le social. Donc il y avait une colonie de vacances qui était dans la ville de Pérol, avec un aménagement paysager que le gestionnaire avait fait, qui était magnifique. Un jour où j'amenais ma nouvelle femme voir ce que j'avais fait, je me suis aperçu que ces deux colonies de vacances avaient disparu, rasées. La deuxième, c'était un lotissement. Qui a remplacé. Récemment, à Balrug-les-Bains, il y avait un établissement thermal que j'avais fait avec un concours en participant avec les habitants et avec la gestion communale qui le gérait. C'était une belle chose. Il est à l'abandon et il va être démoli. Et on a donné au privé cette fonction de rentabiliser le thermal, hein, avec l'argent de la sécurité sociale. Voilà, donc c'est assez fou, quoi. C'est assez fou de voir qu'on parle, on parle, on parle d'écologie, de durable. On a fait disparaître durable parce que c'est tellement peu durable que. On est sur la marchandisation de tout et sur la rotation du capital à toute vitesse pour que ça rapporte, que ça rapporte, que ça rapporte. Voilà. Faire sens, faire commun, faire société, faire amical, rencontrer l'autre, donner du sens à notre vie commune, ça, on s'en fout. Et comme on ne le fait pas, mais on ne l'a pas. On en a parlé en venant ici. C'est finalement dans un lieu de séminaire, de séminaristes, enfermés pour faire commun autour de la religion, que finalement on peut se retrouver. Parce que quels sont les lieux où on peut se retrouver facilement dans une ville ? Ben, ça, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Hein ? Les écoles, malheureux, vous n'allez pas emmerder les gens avec les écoles. Autrefois, on faisait des réunions dans les écoles, mais maintenant, c'est interdit. Hein, voilà, tout est à l'avenant. C'est-à-dire que on n'a plus, quand on est architecte, la possibilité d'avoir des programmes soutenus par les décideurs, quels qu'ils soient, hein, les élus, quels qu'ils soient, qui permettent de faire évoluer les relations sociales qui vont tourner autour des usages que l'objet permet. Hein, voilà. Alors, quelles pourraient être les valeurs véhiculées par une architecture, un urbanisme, un environnement, hein ? Alors, peut-être la durabilité, hein ? C'est-à-dire, déjà, que ces objets doivent durer. Hein ? Vous savez, un objet patrimonial, c'est quelque chose de très particulier et de très simple. C'est un objet dans lequel la société, à un moment donné, a été capable d'investir correctement, c'est-à-dire l'argent qu'il faut pour faire un bel objet, et que cet objet a pu servir à travers l'histoire. Parce qu'un objet qui ne sert plus, quel qu'il soit, même si c'est une cathédrale, même si c'est, je ne sais pas quoi, un château, il devient ruine. Hein, il disparaît. Le patrimonial n'existe plus. Alors maintenant, on reconstitue, on rebâtit, ce qui est un peu con, hein, bon. Mais c'est ça, le patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qui peut être réutilisé, qui a des qualités propres de construction, etc. Deuxième idée, la sobriété. On fait de plus en plus compliqué, parce que quand on balance dans la construction de logements ces objets préfabriqués, c'est des objets sophistiqués. Et on les balade avec des camions, on les met dans des usines, on les fabrique dans des usines, on les déplace, on les monte avec des grues, on les installe de bric-à-brac parce que c'est plus difficile de les installer sur le terrain que dans l'atelier. Et voilà. Et c'est compliqué et c'est laid. Parce que finalement, comme c'est compliqué et cher, on évite de le faire un peu trop sophistiqué. Ensuite, une autre idée, c'est la justesse et la beauté. C'est-à-dire, les choses belles, c'est les choses justes et les choses simples. Ce n'est pas le rococo, le baroque, hein, qui permet peut-être de franchir un pas dans une esthétique à un moment donné, mais qui est quand même toujours un peu trop inadapté, hein, ou en tout cas dépassant l'adaptation. Mais les choses justes et simples, et la beauté, c'est quelque chose qui dure. Ensuite, le collectif. C'est-à-dire, on fait ça pour les gens. On fait ça pour tout le monde. Hein. On ne fait pas ça pour le décideur. On ne fait pas ça pour l'office HLM, pour la mairie ou pour l'industriel. Bon, voilà. Autre idée, la proximité. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'histoire d'Aubenas. On a obligé ces pauvres gens d'Aubenas de se déplacer de leur ville en haut sur la colline avec la vue magnifique sur le paysage. Maintenant, ils ont la vue sur la zone industrielle et c'est à 2 km ou 3 km. Et ils se baladent tout le temps en bagnole. Hein, voilà. Donc la proximité, c'est l'obligation de se croiser, l'obligation de s'entraider, l'obligation de voir son voisin, de le connaître, de ne pas changer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on n'a plus besoin de la bagnole hein, quand on est avec des proximités. Alors par exemple, sur Montpellier, j'ai été élu, moi, à la mairie de Montpellier. Alors comme j'étais une espèce d'architecte atterré, même mes camarades communistes ne m'ont pas mis à l'urbanisme. Hein. On m'a mis dans un coin, je me suis occupé de la circulation et des poubelles. Hein, voilà. Bon, je l'ai fait de bon cœur, mais c'est redoutable, quoi. Et à l'époque, j'avais quand même été sollicité par mon maire, parce qu'ils étaient absolument nuls là-dessus, en me disant « fais-nous un programme d'urbanisme ». Donc j'avais fait un programme d'urbanisme en disant que le premier point sur un programme d'urbanisme, c'était la maîtrise des sols. Il y a une spéculation foncière colossale. Il y a longtemps dans les pays scandinaves que les sols n'appartiennent qu'à l'État et que les gens qui veulent construire ont des droits à construire pour un certain nombre d'années, 50, 60, 70, 90 ans, ce qui fait qu'ils peuvent récupérer leur terrain quand ils veulent pour des choses plus importantes. C'est fabuleux, quoi. Ça n'existe plus. Chez nous, on avait mis en place des règles, parce que le capitalisme ne s'en rend pas compte tout de suite, qui permettaient d'avoir des terrains pas chers. Et j'ai fait fonctionner ça sur Montpellier très longtemps. Et puis à un moment donné, c'est simple, on achetait des terrains dans des zones non constructibles, mais qui pouvaient le devenir. On avait une vingtaine d'années de préemption possible, ce qui veut dire que quand un type ou quand à la mort d'une personne, le terrain se vendait, la mairie se portait acquéreur au prix du terrain agricole. Voilà, c'est-à-dire rien du tout, quoi. C'est-à-dire entre 5 et 10 euros, quoi, hein, pour fixer les idées au mètre carré. Hein. À un moment donné, et alors ces terrains, quand on voulait exproprier pour des raisons sociales, ces terrains faisaient, comment on pourrait dire, faisaient exemplarité dans un juge aux expropriations. Et le jugement disait que quand on avait des terrains tout autour qui étaient à 5-10 euros, ben, ils valaient 5-10 euros. Voilà. Aujourd'hui, on a passé une loi, à un moment donné, et ça s'est passé il y a 10 ans, hein, en plein ultralibéralisme, on a fait passer une loi qui disait qu'il fallait prendre les références tout autour avec les communes du tour. Ce qui fait que quand on était sur une zone agricole délaissée d'une grande commune, il fallait prendre les prix des terrains à construire des villas dans la commune Chicos d'à côté. C'est-à-dire que ça multipliait par 50 ou 100 le prix des terrains tout de suite, en changeant une réglementation. Hein, voilà. Tout ce travail d'urbanisme, par exemple, ce qui était fabuleux, c'est que à Nîmes, ça existe. Et ça a duré, et je crois que ça dure encore. Au lieu d'avoir des élus qui se piquent de comprendre l'urbanisme, il y avait des urbanistes qui étaient dans une société d'urbanisme payée par les collectivités et surveillée par eux, hein, bon, mais qui permettait d'y mettre aussi les habitants, d'avoir un lieu où il y avait un débat, hein, et puis il y a une pérennité d'organisation de la ville. Ben ça, même Montpellier, ils l'ont liquidé, on l'avait monté, cette agence d'urbanisme. À Nîmes, elle perdure. Elle a même perduré avec des mairies de droite dure. Hein. Donc c'est assez étrange. Ouais, bon, je ne pense pas qu'ils aient des coups des franches, mais ça permet de penser qu'il y a des lieux où on peut amener les gens à venir discuter de leurs problèmes. Hein, voilà. Respect de l'existant, la nature, les productions passées. Être le prolongement de ces choses-là. Hein. L'architecture et l'urbanisme, c'est la coquille que nos usages individuels, familiaux, collectifs se constituent pour exister, pour fonctionner. Hein, voilà. Reconnaître la qualité de l'existant, c'est-à-dire le respecter. Hein, même quand il est un peu indigent, mais il sera toujours moins indigent que des boîtes qu'on pose sur un terrain, quoi. Et continuer d'embellir les choses, de se servir du paysage, de se servir des matériaux locaux, de se servir de l'histoire locale. C'est-à-dire, on est immergé, qu'on le veuille ou non, dans la culture. Aujourd'hui, on est immergé dans la culture productiviste, capitaliste de rentabilité. Voilà, c'est la culture qui produit la ville. Hein. On pourrait être effectivement dans le paysage, dans la nature, dans les matériaux, dans l'histoire locale, dans les habitudes locales. Voilà. Donc, si vous voulez... Il y a une possibilité réelle, il y a des gens qui l'ont théorisé, un Italien qui s'appelle Giancarlo De Carlo, qui a parlé de l'architecture de participation. Et moi, j'ai eu des grands coups de cœur. Un de mes premiers bâtiments, ça a été l'école d'architecture de Montpellier. Parce que... le gaullisme avec Malraux, hein, à l'époque à la culture, qui était un personnage, hein, bon, avait accepté l'idée que les gens, puisqu'ils étaient futurs architectes et leurs enseignants, donc les étudiants d'architecture et leurs enseignants, puissent concevoir eux-mêmes leurs locaux. Bon, c'était très intéressant. C'est-à-dire, on pourrait se dire, les enfants d'une école, leurs instits, et les architectes qui vont la construire pourraient travailler ensemble pour définir les besoins réels de l'école. Hein. Alors, j'ai fait l'école d'architecture comme ça. On avait eu donc quelques enseignants et quelques étudiants de troisième cycle qui ont eu l'autorisation de construire de concevoir l'école. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on s'est retrouvés 3 et 3. C'était pas beaucoup. Et que dans les 3 et 3, on s'est retrouvés 1 et 1. C'est-à-dire que même l'intérêt pour ces choses de la participation qui durent un peu, qui ne sont pas bien payées, ça n'intéresse même pas les gens qui sont le plus intéressés. C'est redoutable. Hein. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a une éducation à faire, même à l'intérieur du corpus de l'école d'architecture. Alors j'ai fait la même chose avec une école à Montferrier, où là le maire était directeur d'école. Et le village s'était agrandi, donc il voulait absolument faire une autre école. Et là, on avait deux enseignants de cette école future qui étaient membres des CMEA et qui étaient habitués donc à ce travail de concertation, de discussion. Hein, voilà. Et ces gens-là ont fait avec moi le programme, ont monté l'école. Et cette école, elle fonctionne. Et je suis allé la visiter avec ma fille il n'y a pas très longtemps. Je suis tombé sur une instite qui était en train de fumer à l'extérieur. C'est pas très bien pour les enfants. Mais elle était à l'extérieur. Et qui m'a dit, ah, c'est vous l'architecte fou qui a fait cette école. Voilà. C'est extraordinaire. Quoi. C'est-à-dire, bon, et ils étaient très contents. Hein. Voilà. Donc, oui, voilà, je vais conclure, je m'excuse. Voilà. D'ailleurs, j'arrivais au bout de ce que j'avais à dire. Voilà, je voulais parler comme ça pour ouvrir une discussion de gens qui ne sont pas dans l'architecture et dans l'urbanisme, mais qui peuvent y être, comment et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Luc. Donc moi, j'ai retenu la sobriété, la justesse et peut-être, quand on construit, regarder ce qu'il y a dans l'environnement. On fait attention à ce qu'il y a déjà et après, on construit dans l'harmonie avec le reste. Et je peux dire quand même qu'il y a une évolution par rapport aux écoles, parce que les écoles, maintenant, on les ouvre à l'extérieur. On parle d'écoles et oasis. Et là, surtout par rapport aux aires, maintenant, surtout ici, dans la canicule, etc., on revégétalise l'école, donc tout ce qui est goudron, on l'enlève, etc. Et on veut presque en faire, alors sur Paris, ça se fait, un parc, c'est-à-dire que pendant l'été, eh ben, les gens vont prendre la fraîcheur parce qu'il y aura un petit bassin, etc. Donc c'est une ouverture de l'école, enfin, l'extérieur. En fait, c'est un bâtiment public, donc la population entière peut en profiter. Et c'est cette histoire d'air de fraîcheur et c'est vraiment un événement.
Dans les années 70, on parlait d'école ouverte.
Mais aux parents, école ouverte, peut-être aux parents. Ouverte. Aux parents, mais bon.
Aux jeunes qui habitaient, oui, au quartier.
Oui, oui, oui. Mais voilà, on revient. Non, mais c'est bon, c'est des écoles. En fait, là, c'est par rapport à la canicule que ça se fait. Mais maintenant, c'est vrai que par rapport aussi au bâti multi-usage, je sais que par rapport simplement au supermarché, etc., on veut faire aussi des logements dessus, etc. On utilise le bâti pour plein d'autres choses. Hein. La multifonction, et parce qu'aussi, on a moins d'espace, on s'étale moins aussi dans le... Voilà, on a moins d'argent, mais on s'étale moins sur les terrains agricoles, etc. Donc il y a quand même vraiment une évolution par rapport aux constructions, même par rapport au collectif, puisque avant c'était juste utile. On devait mettre des gens qui sont dans la rue, de les mettre dans les logements. Maintenant, il faut qu'il y ait le bien-être. Donc il y a le côté esthétique, les espaces verts, etc. Il y avait toute une autre philosophie par rapport à l'architecture. Et aussi... Bon, alors oui, vous avez raison.
C'est pas vrai. Mais, donc, la gare est urbanisée à Montpellier pour créer à 5 km du centre-ville une espèce de ville de merde,
oui.
avec une voie ferrée qui a coûté 2 milliards. Hein, la gare a coûté 300 millions. Enfin, c'est du délire, quoi.
Vous faites le lien avec la prochaine intervenante, c'est sur la mobilité. Voilà, je vais vous faire Madame Cécile Laousse va vous parler de la mobilité.
Bonjour, donc je suis Cécile Laousse. Je viens pour vous parler de vélo. Donc moi, je suis retraitée, je suis issue de la fonction publique territoriale où j'ai exercé des fonctions de directrice de service, surtout dans le social, hein, et à la fin de ma carrière dans l'éducation. Voilà, pour la gestion des écoles, justement. Alors, je suis issue de cette fonction publique et là, je viendrai un petit peu Voilà, j'ai envie de dire aussi que depuis... Moi, j'ai vécu 35 ans hein, dans les services d'une commune, de plusieurs communes d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu... il y a des cadres, il y a des services qui fonctionnent avec des gens qui ont travaillé et qui ont amélioré aussi leur aptitude et leur pensée au sujet de la formation, de la création d'écoles, etc. Donc je pense aussi qu'il y a des choses effectivement qui sont violentes et qui ne sont pas possibles dans notre société, mais il y a des choses qui avancent et il y a des gens conscients et beaucoup de gens conscients et bienveillants et qui ont envie de faire des choses dans les services publics. Voilà, ça je le dis parce que j'ai été fonctionnaire et que je suis ravie de l'avoir été. Et que, voilà. Mais aujourd'hui, je suis retraitée et j'ai toujours conscience de la. J'ai été intéressée par des conférences de vendredi sur le pays, sur le territoire, parce que effectivement, c'est cette approche qu'on a du territoire, du pays. Hein. Moi, j'ai des origines sévenoles et c'est pour ça que j'ai voulu apprendre l'occitan. Hein. Je suis une très mauvaise élève au cours, mais j'ai un très bon professeur et des très bons collègues. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette notion d'utilisation, de maîtrise, d'apprentissage du territoire, elle est pour ma part fondamentale. Elle a été dans mon métier, mais elle est aussi dans ma vie de retraité, avec effectivement des soucis de santé éventuellement qui me permettent de moins voir, bien voir, de moins me sentir beaucoup moins habile dans le territoire. Bon, alors je suis militante dans plusieurs associations, mais dans l'association Crocovélo depuis 3 ans que je suis en retraite. Alors j'ai découvert cette association parce que de façon assez fortuite, parce que je faisais un peu de vélo dans la ville et j'ai rencontré donc un groupe très très impliqué dans la promotion du vélo dans l'agglomération limoise pour ils ont envie de développer des aménagements cyclables dans la ville parce qu'effectivement faire du vélo ça peut être une alternative à la voiture individuelle pour des déplacements de proximité. Et effectivement, quand on voit les chiffres en France, hein, la part modale des déplacements en vélo en France pour l'usage vélo domicile-travail ou domicile-course, etc., donc moins de 7 km de distance, on est à 2,5%. Hein, alors qu'en Europe, dans la plupart des pays européens, on touche 8%, 9%. On est à la 25e place en Europe, hein, quand même en France. Hein. Alors, si on décline sur l'Occitanie, en Occitanie, j'ai regardé un peu les chiffres puisque je venais ici à la conférence de la Marpoc. Donc, on est à 4% dans la Haute-Garonne et on est dans le département du Gard à moins de 2%. Lozère et Aveyron, moins de 1,5%. Donc on a effectivement, selon les territoires, une inégalité en France. Donc le rural, beaucoup moins. Aujourd'hui, il y a une forte adhésion hein, quand même pour le vélo en ville qu'on voit dans les grandes villes, dans les villes moyennes, mais beaucoup moins dans les campagnes et dans les villes les petites villes de nos agglomérations. Hein. C'est donc quelque chose qui est différent selon les territoires. Il y a des volontés politiques qui sont différentes selon les territoires. Hein, aujourd'hui, on a toutes les institutions sont en ordre de marche hein, pour le vélo, hein, puisque depuis la loi L'Homme de 2019 hein, sur les mobilités, on a effectivement toutes les institutions qui ont des messieurs vélos, des services vélos, que ce soit la commune, le département, l'agglo, la région et l'État. Hein. On a des plans vélo 2 pour l'État qui se déclinent hein, au niveau région, et puis les communes ont des plans vélo. L'agglomération de Nîmes a demandé l'élargissement de sa définition de compétences en 2021 pour pouvoir faire des aménagements cyclables. Donc on a tout le monde et il y a des compétences. Voirie, par contre, on a vu vendredi l'effet millefeuille, hein. Bon, c'est de toutes nos institutions sur l'aménagement des territoires et du pays. On voit bien effectivement qu'on est dans des problématiques de collaboration entre toutes ces institutions qui n'ont pas forcément la même ligne politique, des problèmes de concurrence, puis même des problèmes de collaboration toute simple. Et effectivement, les décisions sont quelquefois pas toujours évidentes à lire de la part des usagers. Parce que bon, l'association Croc-Vélo que je représente, c'est une association d'usagers de la bicyclette. C'est-à-dire, finalement, on est des habitants qui avons envie d'être en sécurité sur nos voies cyclables, d'avoir un réseau qui nous permette de ne pas utiliser la voiture, de faire ça pour nos petits-enfants, pour un avenir meilleur, pour une meilleure santé, etc. Et on se retrouve finalement à avoir un réseau à Nîmes, alors là je vais parler de Nîmes, un réseau qui est quand même pas continu, un réseau cyclable qui n'est pas dense. On a les pénétrantes par exemple pour aller à Alès, pour aller à Sauve ou pour aller à Sauve-Alès, le troisième je sais plus. Uzès. Bon, effectivement, c'est quand même pas évident. En vélo, même pas du tout. On risque des accidents hein, sur des voies piétonnes, des voies cyclables qui ont été aménagées je pense surtout à la route de Beaucaire que j'emprunte quotidiennement, où il y a des racines d'arbres, où il y a des poteaux en plein milieu. Enfin bon, c'est pas du tout sécurisant pour une dame de mon âge, et je pense qu'en vieillissant, ça sera de moins en moins. J'ai un ami d'ailleurs qui a eu un accident samedi soir en trottinette en utilisant la piste de la rue de Beaucaire. Hein. Donc effectivement, on a envie de ça en tant qu'usager. Donc Croco-Vélo, c'est une association qui existe depuis 2001, qui essaie d'établir des relations avec tous ses partenaires institutionnels. Alors on va voir les gens du département, de l'agglo, de la ville. On est entendu. Ça, les gens sont très courtois, hein. Mais effectivement, bon, on se rend bien compte que le vélo, c'est pas leur priorité. Bon, voilà, il y a certainement d'autres choses, hein. Moi, je le conçois en tant que fonctionnaire territorial. Il y a d'autres enjeux aussi dans la ville. Hein. Bon, les écoles, la maintenance des écoles, hein, le fait qu'effectivement, les fonctionnaires veulent aussi changer les cours, enlever le goudron des cours d'école. Hein. Donc, tout ça, ça coûte. Mais effectivement, il faut cette priorité, c'est pas entendu de la part de nos institutions de façon globale, parce que effectivement, l'aménagement cyclable, j'entendais le maire de Florence là quand le je ne sais pas si vous l'avez entendu à la radio, quand le Tour de France s'est passé. En fait, il expliquait que sa ville, il avait souhaité que sa ville soit une ville favorable au vélo, et que ça avait complètement bouleversé la vision des habitants, la vision des touristes, etc. Donc effectivement, je pense qu'ils n'ont pas compris que aménager des pistes pour le vélo, faire en sorte que le vélo soit, le moyen d'accès pour l'ensemble des habitants, eh bien, ça change la ville, ça donne une ville plus conviviale, plus avec du lien entre les gens, avec une cohabitation entre les différents, les piétons, Donc effectivement, donc nous à Croco-Vélo, on essaye de rencontrer les institutionnels, on essaye aussi de s'informer hein, le maximum. On a des fédérations nationales d'utilisation de la bicyclette, la FUB, hein, qui ont qui sont vraiment vraiment très performante. Donc on essaye aussi d'aller au-devant des gens, des cyclistes, hein, de leur prodiguer quelques conseils. Alors on a des ateliers de diagnostic gratuits, hein, pour les vélos qu'on met en place plusieurs fois par an. On fait des campagnes à l'occasion de campagnes nationales de sécurité routière, briller le soir quand la nuit commence à tomber assez tôt. Là en automne, on fait des campagnes où on piste les cyclistes pour leur prodiguer des phares, des gilets, etc. Donc on est sur une attention à la fois en direction des cyclistes et aussi dans une perpétuelle discussion avec les institutionnels. Et on est aussi sur cette dimension de il faut toujours montrer qu'avec le vélo, on peut faire des choses, on peut être ouvert à la discussion avec les institutionnels. Ça me semble important. Et d'autre part, voilà Croco Vélo. Donc on est ouvert, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons 140 adhérents. Nous sommes effectivement à la recherche d'adhérents qui souhaitent s'impliquer, hein, sur nos ateliers, sur nos campagnes diverses. Et on a aussi beaucoup de collaboration avec certains établissements publics qui travaillent sur le plan de déplacement de leurs salariés. Nous sommes intervenus dernièrement à l'hôpital, également à BRL. Donc en fait, on a une action un peu multiple. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons rejoint depuis peu un collectif d'action, Caïman, avec d'autres associations qui travaillent sur le contournement ouest de Nîmes, sur les transports en bus, hein, trouver d'autres pistes d'amélioration. Et en fait, à l'intérieur de ce collectif, nous essayons de toucher d'une façon différente, hein, cette fois-ci, les institutionnels, de façon un peu plus active, lourde, avec un peu plus d'action, parce que nous souhaitons un réseau dense pour, au niveau cycliste. Nous souhaitons des jalonnements, des communications, des applications mobiles pour nous donner les itinéraires. Nous souhaitons vraiment un réseau dense qui soit sécurisant pour les utilisateurs. Donc tout ça, ben, effectivement, ça demande effectivement une implication des usagers, et c'est à ce titre qu'il me semble important qu'on gagne tous ces associations d'usagers dans tous les domaines de la vie quotidienne, parce que je pense qu'il faut, effectivement des experts comme monsieur sur des connaissances sur les bâtiments, sur les aménagements de la ville, etc. Mais il faut aussi que les usagers prennent en compte leur avenir, en fait. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas forcément de temps. Il faut se dégager un peu de temps, tous, et ça, c'est pas facile. Mais je pense que c'est important, parce que c'est aussi travailler au sein des associations le lien humain, la connaissance, l'envie de partager des opinions qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et ça, je crois que ça nous apprend aussi à aller au-devant des institutions pour essayer de gagner un petit peu, quoi. Alors aujourd'hui, on voudrait vraiment se faire entendre, hein, donc c'est pour ça qu'on essaie de joindre d'autres organisations. Voilà.
Merci. Alors moi, ce que je retiens, c'est que tout est en devenir. Il y a des demandes. Enfin, c'était pas parfait. Donc quand même, il y a des mentalités qui changent. Hein. Il y a un état des lieux qui se fait en disant on veut pas continuer comme ça, autant dans le bâtiment que dans la mobilité. Et aussi, c'est cette gouvernance, c'est-à-dire donner la parole aux usagers, hein, autant aussi aux habitants. C'est-à-dire on va regarder le territoire et aussi à ce que chacun puisse participer. Et aussi, ce que vous disiez, quand même, des fois, on leur offre, mais ils ne parlent pas. En fait, apprendre aussi à faire ça, faire de la pédagogie en disant, vous avez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses. Là, par rapport à la route, c'est sûr que cette rocade, cette dérivation ouest, la ville de Caveyrac, là, et vraiment, ils sont très solidaires, eux, ils ont fait un collectif. Mais bon, la ville de Nîmes, c'est peut-être autre chose, chacun a son opinion aussi. Mais par rapport au bâtiment, c'est vrai que c'est moins, la population est moins entendue. Je pense que c'est ça, il y a vraiment un progrès par rapport à ça à faire. Après, je disais, s'il y a des questions, si vous voulez intervenir, voilà, vous, après vous, monsieur.
Oui, je peux. Non, mais j'ai un micro. Alors, je vous demande d'avoir des questions précises et, si possible, qui appellent des réponses.
Voilà, Cécile, c'est à toi que je veux parler, puisque nous te voyons arriver en cours sur ta bicyclette. Mais tu as signalé un problème, les racines des platanes de la route de Beaucaire. Mmh. J'y suis tombée, moi, pas bicyclette, à pied, parce que les racines, eh ben, la nuit, quand tu marches, tu ne les vois pas. Alors, faut-il sacrifier nos arbres pour faciliter... C'est une question. Si c'était facile, ce serait résolu. Et je prends la rue Bridaine qui va de la rue Cité-Foulque vers l'Esplanade. Elle est tellement... Il y a des racines de pins qu'on a plantées pour l'immeuble d'à côté, de très beaux pins. Mais moi, je marche au milieu de la rue parce que c'est impraticable.
Alors,
voilà.
Faut-il sacrifier les arbres?
Alors,
oui.
C'est le problème. Les bonnes volontés et les bonnes idées, je crois qu'elles y sont. Mais c'est... Qui faut-il sacrifier?
Alors, il n'y a pas... Alors, actuellement, les dernières pistes qu'ils ont faites boulevard Salvador Allende a réglé cette question, puisqu'ils ont fait un déport de la piste cyclable par rapport aux racines des arbres. C'est au droit de Jardiland. Voilà. Vous pouvez voir effectivement qu'il y a un déport. Le technicien nous a expliqué qu'ils avaient réussi à déporter la voie, ce qui n'était pas toujours facile parce que rue de Beaucaire, il faut vraiment tout refaire. À mon avis. Mais c'est pas prévu dans le plan actuel.
Mais je pense qu'en fait l'arbre était pris comme un mobilier, donc on l'a posé là comme ça. Et en fait l'arbre, vous savez, il fallait prévoir que l'arbre évoluait aussi. Hein, c'est prévoir que cet arbre-là, eh bien, il allait grandir, etc. Et là, je pense que quand même il y a des possibilités à faire. On va pas sacrifier l'arbre. Hein, ça, je crois qu'on n'est pas pour ça. Des aménagements, il y a des aménagements.
Oui, moi j'ai entendu deux interventions et trois avec la vôtre complémentaires. L'une qui posait la question sur un plan politique global et l'autre qui donnait un exemple local, politique aussi, mais plus local. Et d'un côté, j'entends l'optimisme de la militante. Nous sommes tous ici, sinon nous ne serions pas ici. D'autre côté, j'entends, Luc, le pessimisme du lutteur qui a l'impression, et je partage ton pessimisme au niveau politique, que la construction des espaces, la construction des villes, elle est faite par des puissances qui sont absolument, c'est meurtrier. Et on a beau, chacun d'entre nous, je crois, à notre niveau, faire des gestes écolos, poser des questions, quelles possibilités avons-nous? C'est vraiment un David et Goliath. David et Goliath. Et là, quand on voit comment... c'est décidé à un niveau international, c'est pas seulement du local ce qui se fait. Et moi je comprends ce que dit Luc par rapport au paysage, parce que je voyage très peu en voiture, mais quand je monte dans mon Cantal et que je traverse n'importe quelle ville, elles se ressemblent toutes, et quand je vois l'espace agricole qu'on a bouffé pour faire des merdes interchangeables de partout, tu donnes des chiffres qui m'ont... Bon, après je m'arrête, mais quand tu donnes le chiffre... Et ça m'a... Je n'ai pas imaginé ça. La surface dévolue à l'habitat et la surface dévolue à rien, quoi, au commerce. Mais c'est meurtrier. Alors, à côté de ça, on peut faire du vélo. Je marche à pied. Je ne sais pas tenir sur un vélo, mais je comprends très bien. Mais c'est un tout petit geste qu'il faut faire. Hein, qu'il faut faire. Et la question que je pose, c'est comment articuler ces résistances quotidiennes. Comment les articuler pour en faire des macro-résistances au niveau du monde dans lequel on est. Et on a beau avoir gagné dimanche, on n'a pas complètement gagné, surtout pas ici. Donc comment on va changer le monde? C'est pas seulement en faisant un petit peu de vélo ou en marchant un petit peu à pied qu'on va lutter contre ces merdes, ce monde de merde qu'on nous a fabriqué et dans lequel on est.
Il y a la création de zéro artificialisation nette des sols. Mais le problème, les communes sont vraiment embêtées parce que c'est très compliqué. Bon, je vous laisse la parole.
Donner la parole aux usagers, j'ai parfois l'impression que c'est une posture et qui n'est pas toujours suivie des faits. Voilà.
Bonjour. Moi, je voulais revenir sur les arbres de la route de Beaucaire. Cette route, moi, je la prenais entre guillemets, dans la 403 de mon papa, j'avais une dizaine d'années. La route, il n'y avait pas non, il n'y avait pas. Elle n'allait pas jusqu'au périphérique. Les maisons s'arrêtaient bien avant. Il y avait deux voies, une dans chaque sens, et les platanes étaient très, très loin de la route. Et puis, on a mis des terre-pleins, et puis on a mis des voies de bus, et puis on a mis des voies de vélo. Chacun avec sa particularité, son clocher, sa tranche de responsabilité et de travail, sans avoir quelqu'un qui a fait le global. Et on a grignoté les platanes, ce n'est pas les racines des platanes, c'est nous qui sommes allés sur les racines. Et le gros problème est là, c'est que dans un trou de souris, on a fait passer un éléphant. Et si vous y passez, effectivement, les piétons ne sont pas contents, les vélos ne sont pas contents, les trottinettes ne sont pas contentes, les voitures ne sont pas contentes, les usagers des bus non plus parce que ça saute et autres. Mais le souci qu'il y a, c'est surtout, moi, ce que je vois, c'est que chacun a travaillé sur sa spécialité dans son petit truc de clocher et à l'arrivée, il y a des problèmes, mais tout le monde a des problèmes. C'est un peu... Il n'y a plus au jour d'aujourd'hui des gens qui sont là pour avoir la globalité et faire travailler ensemble les équipes. Chaque équipe a son autorité propre et le gros souci est là, il n'y a plus de vue d'ensemble.
Oui, alors moi j'habite le quartier de la route de Beaucaire, dont l'essentiel de la question a été exposé d'abord par Simone, puis par Claude. Je voudrais simplement faire une observation. Je constate dans la ville de Nîmes, mais partout où on va, dans toutes les villes, qu'à mesure que les voies cyclables se développent, la part résiduelle laissée aux piétons devient peau de chagrin. S'y ajoute maintenant le problème des trottinettes électriques. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, dans la route de Beaucaire, entre la voie cyclable et le mur des habitations, il y a les arbres que je ne veux absolument pas abattre. Et pour passer, les piétons ont souvent des petits espaces très limités sur lesquels il y a des racines, sur lesquels on peut buter les voilà. Il faudrait que ce soit concerté. Le premier mode de déplacement, c'est la marche à pied avant le vélo. Après, voilà. Bon. Maintenant, j'aurais après une question pour M. Luc Doumen, mais je passe la parole à quelqu'un d'autre.
Comment on peut concevoir cette transition? Parce qu'effectivement, on part d'un état qui était d'une situation où tout était dépendu à la voiture, la ville complète organisée.
On n'a aucune réflexion sur la conception. Aucune. Il y a des gens qui ont parlé de ça, mais on n'en a aucune. Là, par exemple, le travail sur le vélo, c'est très bien. En plus, une association qui parle et qui discute avec les décideurs, c'est fondamental. C'est comme ça, la démocratie. Hein, bon. C'est bien. Mais, par exemple, les chiffres qui sont donnés en disant pourcentage de vélos, c'est complètement illusoire. Je vais vous donner un vrai chiffre. Quand vous prenez vos quartiers, hein, nos quartiers encore, dans les villes traditionnelles, on a des quartiers qui fonctionnent. On a des quartiers qui ne fonctionnent plus, mais même des quartiers nouveaux comme la ZUP, ça fonctionne. Si on regarde le nombre de gens qui travaillent, donc ils sont obligés de sortir et de rentrer pour travailler, il y a à peu près 35% de gens qui travaillent. Il y en a 65% qui ne travaillent pas. Ça, il faut le savoir. Hein. Bon. Dans les 35%, il y en a quand même 5 ou 6% qui travaillent sur place. Donc on n'est plus qu'à 30%. Par contre, tous les autres, pratiquement, dans un quartier, quand on a la proximité qui est respectée, se déplacent à pied. C'est des piétons. Tous les autres, c'est des piétons. Potentiels. Mais réels, réels. Regardez le nombre de personnes âgées, d'enfants, de personnes qui ne travaillent pas, de gens qui travaillent juste à côté. Ils se déplacent à pied. Dans les déplacements, la marche à pied représente 80% des déplacements. C'est sur les 20% où l'auto prend 90%, quoi. Enfin, j'exagère un peu exprès, quoi. Il y a quand même les transports en commun au milieu. Mais les transports en commun, par exemple, ça répond à la question. Même quand on lance un nouveau transport en commun, comme le tramway à Montpellier, eh bien, on fait un truc imbécile qui essaye de relier, là c'est la ligne 1, qui essaye de relier tous les endroits où il y a des clients potentiels de la ligne. Et on a un bidule qui se promène dans la ville, qui fait des tortillons, des zigzags, des trucs, des miches. Puis après, on met une deuxième ligne, et hop, c'est pareil. Il n'y a jamais eu, avant de faire la première ligne, une analyse intelligente du fonctionnement réel des flux de circulation dans la ville. Ce qui était le cas au 19e siècle quand ils ont fait le tramway. Quand on a fait le tramway au 19e siècle, on les a mis sur les pénétrantes. Et ensuite, on a mis des liaisons transversales qui se faisaient avec les bus. Aujourd'hui, c'est une marchandise, le tramway. Plus il circule, plus il démarre à 5 heures du matin, le tramway à Montpellier. Moi, j'habite plein centre-ville, je le vois, je suis insomniaque du matin. Bon, à 5 heures du matin, il commence. Jusqu'à 7h30, il n'y a personne dans le tramway. Quand je dis personne, vers 7h, il y a 6-7 personnes dans un tramway. Si on mettait des taxis de 5h du matin à 7h30, au lieu de tramway qui coûte la peau du cul pour se trimballer dans la ville, on économiserait un fric fou. Mais c'est la TAM, qui est un organisme privé qui travaille avec Veolia. Ils ont enlevé Veolia des TAM, des bus, parce que ça la foutait mal quand même, de dire que c'était une grande multinationale qui gérait les tramways à Montpellier. Voilà, on en est là. Ce qui veut dire que si on ne fait pas l'effort d'être sur la proximité, de réorganiser tout pour que l'école soit à pied, que les commerces soient à pied, que le jardin local soit à pied, etc., etc., on n'a pas anticipé rien. Et au moins, si on anticipait, par exemple, la logique des écoles, par exemple, une école. À un moment donné, on a un quartier qui bouge, et on fait une école. Mais on n'a jamais prévu la place de l'école alors que le quartier démarrait. Jamais. Jamais. C'est extravagant, quoi. On se dit, mais on est fou, quoi. Et après, on va trouver un bout de terrain là pour mettre l'école. Enfin, vous voyez ? Donc, c'est cette anticipation qui n'existe pas. Et parce qu'on n'a pas cette culture. Nos ingénieurs du 19e siècle l'avaient beaucoup plus que les services publics des techniciens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de rapetasser les arbres. Enfin, voyons. Reprenez toutes nos routes départementales. Elles étaient bordées de platanes. Ils sont montés à 30 mètres. Putain, mais vous avez vu le bitume qui s'est soulevé, vous ? Mais non, parce qu'on les plantait comme il faut. Tandis que là, comme on dit, on pose des objets. On décide qu'on va poser des trucs. Alors, l'élu, parce que c'est souvent lui, il dit « Ah, mais moi, je veux pas de platane, je veux des pins, c'est beaucoup mieux, c'est local, etc. » Bon, mais le pin, c'est encore pire que le platane, hein, pour les racines. Mais voilà, on fait l'esplanade à Montpellier. Puis ils viennent de refaire l'esplanade à Montpellier. C'est assez réussi. Je l'ai dit au maire, parce que j'ai vu ce balade, j'ai dit « Ouais, c'est pas mal, quoi. » Mais quand même, ils ont foutu une masse de béton là-dessus, mais hallucinant. Ils ont bousillé un travail d'une paysagiste montpelliéraine qui agissait depuis 10 ans pour faire des choses remarquables. Ils ont tout bousillé. Maintenant, ça va peut-être se refaire. J'espère que celle-là, elle n'est pas au placard et que ce n'est pas elle qui va... Vous voyez, c'est un peu fou, quoi.
Oui, alors moi, j'en reviens au lotissement, en fait, aux boîtes qu'on met dans les villages, puisque j'habite un village à l'heure qu'il est. Et donc, c'est les finances de la commune qui sont en direct avec les lotissements. Donc, on n'imagine pas à l'heure actuelle, quelle que soit la municipalité, autre chose que d'élargir le, potentiellement les gens qui vont payer la taxe foncière pour abonder dans les, dans les, dans la, les finances communales. Ça, c'est une chose. Mais c'est difficile à combattre. L'autre chose est... On devrait partir des besoins des habitants. J'ai eu la chance d'assister, même si ça n'a pas, pas fonctionné parce qu'il y a eu des changements ensuite, à une expérience pour faire une maison des jeunes à 7 à l'île de Thau, avec Luc à l'époque, où on débattait avant de quels étaient les besoins pour pouvoir avoir une architecture qui correspondent aux besoins qu'on exprimait futurs. Alors peut-être c'était pas les bons, j'en sais rien, mais enfin les besoins que la population s'exprime avant qu'on fasse quoi que ce soit. Maintenant, ça c'est vraiment on fait les trucs et puis on subit. Et en tant qu'habitant, on a toujours l'impression de subir. Alors bon, la question des villages. Avec leur lotissement, avec le fait que les gens y s'enferment chez eux, c'est une question de culture importante, et la question de qui se fait du fric dessus aussi. Les lotisseurs, ils ne sont pas nombreux.
Moi, je rejoins ce que disait Marie-Jeanne tout à l'heure. Je suis horrifiée de voir à l'entrée de chaque ville des kilomètres maintenant de hangars, moches plus les uns que les autres, qui durent 2 ans, 3 ans, qui s'arrêtent parce qu'ils ne servent à rien, ils ont servi un moment au point de vue commerce, et ils disparaissent, et on remet autre chose à la place, ainsi de suite. J'habite Verrales. Verrales, il y a une association qui s'appelle Sauvegarde de la Prairie. Il y a, le long du Gardon, il y avait des bonnes terres arables. Toutes ces terres arables qui étaient utilisées par des jardins ouvriers, des petits cultivateurs, des gens qui cultivent, qui ont des plantes, des végétaux, sont maintenant envahis par tout cela. Alors ils résistent. Malgré tout, la loi n'est pas pour eux, parce qu'il y a un grand supermarché qui s'est mis à un endroit. La sous-préfecture l'a interdit, le grand supermarché s'est construit, et maintenant on ne le fait pas démolir. Et ça va continuer comme ça. Alors tout ce qui est beau, tout ce qui est utile, disparaît sous des choses qui n'ont rien à faire là. Je ne sais pas comment on peut empêcher ça. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher qu'il y ait des constructions comme ça qui se mettent n'importe où, n'importe... C'est tout le long maintenant, hein. Ça suit des kilomètres. Alors les entrées de ville, c'est vrai, on parlait d'Aubenas, j'y vais souvent pour des journées de livres. La journée de livres, elle est dans un grand hangar de la zone industrielle. C'est triste quand même. C'est dommage, on gâche vraiment. Comment peut-on faire pour empêcher cela, hein? Oui, sans compter les panneaux solaires.
Elle n'a pas le droit à la parole, celle qui a levé la main tout
à l'heure. Je pense qu'on peut tous prendre la parole et décrire des situations qui sont calamiteuses. Mais je vais... Juste...
Bonjour à tutti. Sui arrivader et tard, perdon. Mon carrosse m'a lâché. Du coup, mobilité douce, bien sûr, gestion des lags, gestion de la vie sur l'espace public à cause important. Hier, on a fait une conférence sur Camargue où Gaël Emery nous présentait la toponymie et disait que les noms de lieux ont la mémoire de ce qui se passe quand il y a des inondations, de ce qui se passe quand il y a des coups de mer, etc., de là où les terres sont émergées, même quand la mer est haute, ou là où elles sont immergées quand elle est basse, etc., etc. Cette toponymie, il faut la garder précieusement. On ne débaptise pas avenue du Cadoreau pour l'appeler avenue Georges Pompidou. c'est de l'aliénation, c'est de l'acculturation, et c'est dangereux pour les habitants qui ne sont pas d'ici, qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. La langue occitane recèle dans son vocabulaire une bias, une manière d'éveiller le pays, de connaître le pays, et pas seulement à Nîmes, mais dans tout l'espace occitan qui fait 36 départements. Vous disiez comment on peut aménager le territoire pour le rendre désirable. Moi, j'ai participé il y a peu à une consultation organisée par le conseil départemental du Gard sur la gestion publique de l'eau, qui essaye de voir les choses sur 20, 30, 40, 50 ans, des projections, et qui essaye aussi de demander quel lien on peut faire entre le savoir-faire sur les différents bassins versants, que ce soit les Cévennes, la Camargue, les Garrigues, les vallées rhodaniennes, où les problématiques sont différentes. Certains ont beaucoup d'eau, d'autres en ont parfois trop, d'autres en ont souvent pas assez. Et les inondations ou la sécheresse sont deux choses entières. Bon. Il y a une consultation. Et je veux parler de méthode, parce que je te rejoins. Il y a une manière de consulter les gens en leur faisant croire qu'on les écoute, et où derrière, finalement, on ne les écoute pas du tout, et on continue de donner les choses à bétonner. C'est ce que nous avons vécu au Marronnier quand il s'agit de la consultation de la ville, cette fois, sur les pépinières Pichon, qui ont été un projet où les habitants, le comité de quartier de Pierre Gamel s'est mobilisé. Il y avait plus de 60 ou 70 personnes qui étaient là pour dire ce dont ils avaient envie, ce qu'ils ne refusaient. On a tous dit qu'il ne faut pas bétonner le lit du Vistre. C'est une aberration. Il y a des grenouilles, il y a des roselières, il y a des choses à mettre en avant. Ils ont dit, ah ben, alors vous mettez vos post-it sur la carte avec vos idées, puis on fera une synthèse, évidemment. Comme chacun mettait ses idées sur post-it par écrit, ben personne n'entendait ce qu'avait comme idée son voisin. Et résultat, la synthèse, ils ont bien dit ce qu'ils voulaient, eux. C'est-à-dire que le lit du Vistre va être bétonné, parce que vous comprenez, c'est le plan inondation. Donc je crains que la consultation du département se passe de la même manière. Pourquoi je dis cela ? Parce que de la même manière, on nous a exposé longuement avec un joli film, de gros moyens, des belles plaquettes qui ont dû coûter bien cher, comment ça pouvait risquer de se passer dans les 50-100 années à venir, avec un climat qui va changer, devenir plus sud-tunisien, subsaharien, ou avec des inondations très fortes. Bon, très joli film, très intéressant, un peu stressant, certes. Mais voilà. Et quand est arrivé le moment de nous demander notre avis, notre manière de voir les choses, de comment on peut faire pour éviter que la vigne, elle crève, parce que même irriguée à 45 degrés, la vigne, elle crève. Donc il est grand temps de planter des arbres au-dessus des vignobles, et parce que ça va arriver dans 25-30 ans, peut-être même avant. Hein, voilà. Donc la consultation, c'était le dernier moment. Les post-it sur la carte, comme d'hab. Et l'animation de l'atelier, super, mais bon, du coup, on n'entend pas les idées de monsieur, ni de madame, ni de nos voisins, ou très peu. Et résultat, je sens aussi qu'on va se faire en papaouté, et que les devis, les contrats iront toujours aux mêmes qui connaissent monsieur ou madame un tel, et parce que c'est pas mal. Donc, moi, j'aimerais que gouverner, c'est prévoir, et j'aimerais que l'intelligence populaire, des gens qui connaissent les lieux, qui connaissent leur histoire, qui connaissent les enjeux, qui connaissent les méthodes ancestrales pour résister aux problèmes climatiques. C'est pas la première fois qu'il fait chaud, qu'il fait sec, même si c'est extrêmement plus dense. Soit entendu, mais vraiment. C'est-à-dire, on fait des cahiers de doléances, mais on les met pas dans le placard pour dire, voilà, c'est bon, quoi. Merci.
Et grand merci à toi.
Je l'ai fait. Je suis allée sur Nîmes au climat. C'était Bérangère Noguier, qui est conseillère départementale et vice-présidente, qui est très écologiste. Et j'ai toute confiance en elle. Donc, tout ce travail qui était fait sur tout le territoire. Donc, déjà, il y a une discussion entre tables. Hein. Déjà, vous avez pu parler entre tables. Hein. Ah ben, ça dépend de la table. Voilà. Moi, nous, on a travaillé. Il y avait beaucoup d'idées, mais il vous avait un retour, c'est-à-dire ce que vous avez fait. Mais il y aura d'autres réunions parce que déjà c'était assez long pour elle de tourner. Il y aura un retour sur ce que vous avez fait. Et elle présentera tout ça. Donc c'est là où si vous n'avez pas eu, vous n'avez pas entendu. Enfin, vous n'avez pas dit ce que vous pouvez dire, vous le direz à ce moment-là. Mais dites-vous, je crois que là, il y a un travail sérieux. C'est du temps. Et surtout, je trouve que la première chose qui est importante, c'est au moins présenter ça, pouvoir le concevoir, réfléchir nous-mêmes, individuellement. Déjà, on a dit, ah, ben ça existe. Quand on sait qu'il va y avoir le climat de la Tunisie, dans pas longtemps, etc., ben il faut d'abord le prévoir. C'est-à-dire, il faut bouger. On ne peut pas rester immobile. Même si ça va être dur, on ne peut pas rester dans notre... Enfin, notre... Non, je veux dire, là, franchement, il faut vraiment que la population se rende compte que le changement climatique va nous, notre zone de confort, voilà. On va changer là, et ben ça sera obligatoire parce que ben c'est le climat qui fait que ben on doit changer. C'est pas la politique qui dit qu'il faut changer. C'est le climat qui fait que nous on doit changer de, d'attitude, ben se déplacer plutôt plus en vélo, etc. J'arrête là.
Oui, oui. Juste pour compléter quand même ce que dit Claudine et ce que vous dites aussi à propos des consultations publiques. J'ai participé l'année dernière à, pour un village qui allait, qui se propose, qui avait confié à un cabinet d'études la, la rénovation du village, de la rue principale, et donc le cabinet d'études a fait une consultation de la population, mais en fait avec trois tables rondes, voilà. Et mais c'est très compliqué parce que dans Monsieur Tout le Monde. Eh ben, il y a trois personnes qui sont habituées à parler en public, qui sont des grandes gueules et qui parfois, là, pour le coup, représentaient les commerçants. Et puis après, il y avait plein de monde qui, ils avaient des idées, mais bon, ils n'osaient pas parler parce que les autres, ils parlaient très fort. Et finalement, la consultation, ben, c'est le reflet des trois qui ont parlé fort et haut et qui représentaient, voilà. Donc, peut-être qu'il faut. Non, je me disais, j'en sais rien, mais je me disais, les associations sont aussi une échelle intermédiaire où peut-être dans le cadre de l'association, on est plus en confiance pour élaborer une réponse ou un questionnement. Et ensuite, l'association peut porter la parole de ses adhérents. C'est le, comme Crocovélo, vous faites ça, j'imagine. Voilà.
Enfin, oui, rien n'est parfait, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que, par exemple, quand on a introduit ces notions de concertation, je vous ai dit, moi, que l'architecture devait être une histoire de concertation. Hein, de, voilà. Et qu'il y a un architecte italien qui a travaillé là-dessus, qui l'a fait, qu'il y a un certain nombre d'architectes qui l'ont fait sur certains projets. Ça marche très bien. Et ce n'est pas du tout un ajout d'intelligence isolée. C'est l'intelligence collective. Ça, c'est fabuleux. Quand on est sur les vrais problèmes, quand on élimine le caca de chien qui est devant la porte de celui qui veut parler à tout prix, quand on est sur les problèmes fondamentaux, les gens sont super intelligents ensemble. Ils sont beaucoup plus intelligents. On est stupéfait de voir qu'ils pensent à des trucs que l'expert n'a pas pensé du tout. Hein. Par contre, le problème de cet État qui régit tout, de ces lois que fait l'ultralibéralisme, malgré nous, grâce à nos présidents successifs et à nos assemblées dépourvues de tout pouvoir, ces lois sont ces lois. Et quand ils font des lois, ils disent, ils entendent parler de concertation, ils voient que les gens se réunissent pour avoir de la concertation, ils disent « Ouh là là, on va désamorcer ça, on va rendre la concertation obligatoire ». Donc, il va falloir faire des concertations obligatoires. Elles vont être publiées au journal officiel, qui doit être affiché au moins dans deux endroits de la commune. Donc, à Montpellier, par exemple, ça va être affiché à la mairie, et je ne sais pas où, hein, et puis au journal officiel. Donc, quand vous faites la gare ex-urbanisée, que vous avez les réunions de concertation, personne ne le sait. Hein. Il y a 30 ou 40 personnes qui y vont, par hasard, ou simplement appelées par les gens qui organisent la concertation. Et quand, par hasard, il y a une mobilisation qui a 50 ou 60 personnes qui débarquent avec des vraies questions, eh bien, la concertation a lieu, les vraies questions ont lieu, et on s'en fout, la concertation a eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'on suit ce qui est sorti majoritairement, ultra-majoritairement, de la réunion. On a fait la concertation, c'est fait. Voilà. Vous pouvez sauter 2 mètres son hauteur. Oui, oui, monsieur. Ah, il a fait. Voilà. C'est extraordinaire. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que c'est organisé dans les textes. Donc, c'est du baratin complet, quoi. Hein ? C'est de l'enfumage. Comme vous dites, c'est les conseils, c'est les associations, c'est les réunions des gens sur des vrais problèmes, hein, pas sur des trucs mineurs, on le règle entre voisins, hein, mais sur des vrais problèmes qu'on arrivera à avancer correctement. Mais il y a du recul, on a tout bousillé, quoi. Il va falloir raser toute cette merde.
Si je peux me permettre, c'est une des sources du problème qui nous a fait nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes retrouvés dimanche et depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les électeurs, à force de se sentir bananés, ne se déplacent plus. Par contre, je ne cherchais pas à remettre en question ni en cause la bienveillance de Mme Noguet, qui, je trouve, a fait un bon travail. Ce qui m'a interpellée, c'était la gestion du temps sur l'atelier, parce que beaucoup de temps a été consacré au constat, au film, au machin, au truc. Et finalement, le temps de la concertation, du dialogue sur les tables de 10, ils nous ont posé plein de petites questions, on mettait nos post-it, mais c'était plutôt sur la fin du truc. Ça a duré quoi, une demi-heure, alors qu'on était là depuis un bon moment. Donc je me dis, c'est dommage, peut-être pour la gestion du temps pour les prochaines fois, effectivement, en venir plus vite à demander ce que les gens pensent. Parce que moi, je veux encore essayer d'avoir de l'espoir sur ce qu'est de la concertation, même si certaines politiques manipulent cet outil-là en disant on leur fait croire que, puis on va les bumper, et rien. Je pense qu'il en existe d'autres sortes qui, quand même, ont envie que ça se passe autrement. Du moins, je l'espère, sinon on est mal. Et sur le fait que, ici, on a quand même plusieurs niveaux, leviers de contrôle, que ce soit les comités de quartier, encore une fois, les associations, tu l'as dit, qui viennent interpeller les élus. Mais effectivement, il y a les jeunes, souvent, se détournent de l'info et de la politique. Donc, il y a des choses importantes pour aller chercher les gens, les sortir de leur écran de téléphone ou leur transmettre l'info par téléphone. J'ai participé récemment à une caravane européenne qui venait montrer ce que le Conseil européen finance dans la région Occitanie-Midi-Pyrénées comme projet pour s'adapter au changement climatique. Ça s'appelle Young for Green ERF en occitan, c'est super. Et ils sont allés à l'école de la deuxième chance pour demander à ces jeunes qui sont sortis du système scolaire classique ce qu'ils savent, eux, du réchauffement climatique et des changements. Est-ce qu'ils en savent quelque chose, grand chose, pas grand chose? Et comment on peut justement les informer de ce qu'on peut faire, de ce que l'Europe finance? Bon, c'est un peu de la com, hein, tout ça. Certains disent que c'est du greenwashing. Je ne partage pas tout à fait cette opinion. Mais ce qui les intéressait, en fait, c'était de leur faire faire des quiz sur leur téléphone avec un QR code pour savoir qu'est-ce qu'ils savent de l'Europe. Et ce qui les intéressait, c'est de savoir comment toucher ce nouveau public, c'est-à-dire et comment on a capable de jouer. Est-ce qu'il faut des influenceurs qui ont des messages politiques pour que les jeunes écoutent? S'il le faut, ben allons-y, payons des influenceurs, on s'en fout. Est-ce qu'il faut que TikTok et machin, les trucs... C'est ce que les questions que la dame posait, c'était ça. C'était comment on peut vous toucher, vous? Comment on peut vous faire passer l'info? Voilà.
Bon, je crois qu'il va y avoir l'autre atelier. Je voulais parler juste de la concertation. Je pense déjà, je trouve que c'est une bonne chose que des gens se regroupent et soient informés de ce qui se passe. Non, qu'ils soient. Je continue. C'est d'abord l'information de ce qui se passe et après informer de ce qu'il y a comme projet, etc. C'est une information et après. Il y a la deuxième chose, c'est prendre place. C'est informer de ce qui va se passer, ce qu'on veut faire. Et après, donc, prendre en compte la population, il faut, ça se prépare, ça se forme. C'est-à-dire que les gens aussi, pour qu'ils prennent la parole, aussi à la force d'en faire, ils prendront facilement la parole. Et après, qu'ils comprennent que c'est très complexe. Je trouve que c'est déjà une façon de... C'est une gouvernance particulière qui ne se faisait pas avant, j'ai en plus. Après, il y a toujours des choses à améliorer et toujours des gens qui... Bon, on ne peut pas faire tout ce que disent les gens. Il faut quand même synthétiser et le côté pratique. Dire là, ça ne sera pas possible. Oui, il a une très bonne idée, mais là, on ne peut pas le faire à ce moment-là, etc. Bon, c'est très complexe après la scène. Voilà, je finissais par là. Est-ce qu'on finit l'atelier maintenant parce qu'il y a l'autre atelier ou il y a d'autres... Voilà, on va. Je vous reprends la parole. Merci.
On a beaucoup parlé des concertations, mais si les associations arrivent en ordre dispersé dans les concertations, c'est perdu d'avance. Ce qui est en train de se passer, ça s'est passé dans la bataille jusqu'à dimanche pour éviter l'extrême droite au pouvoir. Les associations se sont regroupées. Il y a des regroupements, des centaines d'associations, et qu'il y a des collectifs locaux qui sont constitués déjà dans quelques villes, par exemple à Montpellier, c'est fait, et qui permettent de traiter conjointement. Et quand il y a un sujet que connaît davantage une association de locataires, mais les autres associations sur ce sujet-là, elles vont l'aider, elles vont lui apporter des idées supplémentaires. Et quand elle parlera pas seulement en tant qu'association X, mais elle parlera au niveau de l'ensemble des associations. Et ça mène des compétences. Et le premier sujet, quand on a préparé ça sur Béziers, parce que c'est en cours d'émergence, le premier sujet qui est venu, c'est le droit à l'accessibilité. Au sens large, l'accessibilité, ce n'est pas seulement la mobilité, c'est l'accessibilité. On a proposé d'entrer comment les piétons étaient respectés si on ne mettait que l'axe des vélos. Il faut arriver à traiter à la fois les piétons, les vélos, les transports en commun. Et il y a des associations qui ont leur spécialité là-dessus. Et si on les met ensemble, elles peuvent construire un débat beaucoup plus cohérent et avoir beaucoup plus de force par rapport à la technocratie qui est derrière, soit directement par des fonctionnaires qui ont leurs compétences, il faut les utiliser pour leurs compétences, mais il faut que les associations arrivent avec leurs arguments. Et ça, ça commence à se faire, et c'est donc un appel à ce que chacun, là où vous êtes, s'il y a une émergence de collectif, à Montpellier, c'est le collectif du pacte de pouvoir de vivre qui est en place, il y a 3 ou 4 sujets, dont une zone zéro chômeur, qui unit les Grabels et le haut de la Mosson, donc on est dans le micro-quartier, on est dans la proximité. Et c'est ce qu'on veut faire avec ces collectifs. Ce n'est pas des collectifs à l'échelle d'un département, c'est des collectifs sur un sujet localisé et sur lesquels on peut poser ensemble et réfléchir. Parce que moi, j'ai participé à la bataille contre la connerie énorme qui est la gare de Montpellier Sud. Il y a eu de la mobilisation, il y a eu des pétitions et on a quand même perdu. Les LGV, c'est un problème.
Oui. Ben, voilà. Bon, merci Jean-Louis. Et effectivement, la coopération et le collectif, c'est toujours mieux si on veut faire avancer les choses que l'individuel, chacun pour soi et chacun de son côté. Merci beaucoup à Cécile Laouze, à Luc Douminc et à Dominique Andrieux-Bonnet de nous avoir rejoints et de nous avoir permis cette discussion et ce débat qui, bien entendu, on va partir tous un peu frustrés parce que on aurait tant aimé pouvoir débattre plus longtemps et plus. Et voilà. Et donc, à poursuivre. Et la prochaine fois, autant que possible en Occitan.